Émission à ciel ouvert sur RVR, une émission où tout doit se dire sans retenue. Évidemment, nous évoquerons les conséquences du Covid-19, le coronavirus qui a lancé une attaque planétaire. À notre micro, Gervais Morel, expert comptable, Michel Lebrun, scientifique et Claude Janin, géographe. Votre serviteur, Jean-Pierre Doroir. Une émission à ciel ouvert par téléphone, confinement oblige. Bonjour messieurs. Comment vivez-vous ce moment de confinement et de cette attaque du coronavirus? Nous allons commencer par Gervais Morel.
Bah écoutez, pour l'instant, c'est supportable. Alors, d'autant plus supportable qu'habitant, comme la plupart d'entre nous, en campagne, disons, on a la possibilité, en tous les cas, je connais que j'ai beaucoup de chance, j'ai la possibilité de sortir dans mon jardin. J'arrache les mauvaises herbes, je soigne. J'ai même envisagé de planter à nouveau des mauvaises herbes pour pouvoir les ramasser et m'occuper. Disons que pour l'instant, c'est supportable.
Bien. Pour Michel Lebrun, qui se trouve dans la côte rouennaise.
Je ne serais pas émettre mot désagréable par rapport à ce confinement, parce que je suis obligé de me souvenir, moi, de ma famille qui a subi l'exode à la dernière guerre. Qui a eu une partie de l'exode aussi en 14-18, un arrière-grand-père qui a eu les pieds gelés quand il était confiné dans les tranchées. Donc, bon, alors, je pense quand même que c'est difficile pour des gens qui sont en ville, mais pour ce qui nous concerne à la campagne, vraiment, on peut pas se. Faut relativiser, hein, véritablement. Hein. Donc, alors, c'est un moyen aussi de prendre son temps pour réfléchir, pour lire, pour passer un coup de fil aux amis, hein, Gervais.
Voilà. Absolument.
Une chose à préciser, Gervais Morel habite Cours-la-Ville et Michel Lebrun habite dans la côte rouennaise. Et donc Claude Janin, qu'on va rejoindre tout de suite, habite sur la commune de Fourneau. Claude Janin, à vous, donc, comment vivez-vous ce confinement? Vous aussi, vous êtes à la campagne.
Oui, effectivement, je pense qu'on a une situation relativement privilégiée par rapport à des gens qui sont dans des petits appartements, parfois nombreux en ville, qui ne peuvent pas sortir, et puis surtout par rapport à tous ceux qui ont une obligation professionnelle, notamment le personnel de santé, hein, qui doivent faire face de plein fouet à cette pandémie. Alors moi je dirais qu'en plus, de mon côté, bon, j'ai toujours eu une part de mon travail en télétravail, donc je dirais que cette part-là a pris un peu plus de place, et finalement ça se passe pas trop mal, et avec quelques apéros virtuels en Skype, voilà, avec des amis, pour garder le contact.
3 milliards de personnes confinées et des millions de soldats du corps médical pour combattre ce virus qui a atteint les habitants de la planète. Seule la Chine, la Corée et Singapour ont maîtrisé la pandémie. Pour l'instant, des milliers de personnes ont été et seront fauchées par le Covid-19. Quelle est votre réaction? Et quel constat faites-vous, Claude Janin?
Moi, je dirais que ça nous ramène, alors ça a été beaucoup dit, hein, par un certain nombre de personnes, mais je pense qu'un des éléments majeurs, au-delà des nombreux décès qu'il y a, au-delà de tous ces problèmes majeurs que rencontrent certaines familles, et de nombreuses familles, moi, je pense qu'un des enseignements que j'en retire, c'est que ça nous ramène à une certaine philosophie. Que justement, on ne peut pas tout prévoir. C'est-à-dire qu'on était peut-être arrivé à un stade où on pensait que tout pouvait être prédictible, que tout pouvait être organisé, préparé, et que l'homme avait le contrôle de tout. Et là, ça nous montre que finalement, eh bien, il suffit parfois d'un grain de sable, si on peut parler de grain de sable, pour amener des situations très difficiles et nous ramener à je dirais, l'incertitude du lendemain. Ça me faisait penser, j'ai travaillé à une époque en Afrique, et c'est vrai que là-bas, quand les gens se rencontrent, ils se disent toujours comment ça va, comment va la famille, comment va le village. Et je trouve que dans nos relations chez nous, ça nous a amené à cela. Aujourd'hui, quand on se rencontre, on se demande par téléphone ou autre, on se demande souvent comment ça va dans la famille, comment ça va ailleurs, parce que je pense qu'on est à nouveau, nous aussi, confrontés à cette incertitude. En Afrique, c'est lié aux conditions climatiques, aux conditions d'alimentation. Et ici, eh bien, aujourd'hui, c'est la maladie qui vient nous amener de l'incertitude.
Gervais Morel, quel constat faites-vous et quelle est votre réaction à tout cela?
Moi, je suis assez étonné, pour pas dire presque en colère, de voir défiler dans nos émissions de télévision tous les grands mandarins des grands hôpitaux français et de grands spécialistes. Je pense que certains d'ailleurs n'ont pas vu un patient depuis des années. Pour pas passer pour un incompétent, ils apportent toujours des réponses. Mais ces réponses sont en contradiction les unes avec les autres et évoluent dans le temps. On dit un jour ce qu'on dira contraire le lendemain. Ils n'ont pas l'honnêteté d'avouer qu'ils sont assez en difficulté devant ce virus qu'ils ne connaissent pas et qu'ils découvrent au fur et à mesure. La polémique avec ce professeur de Marseille et ses autres confrères en est une autre illustration. J'ai été pour le moins étonné. On lançait un programme européen pour tester le médicament proposé par ce professeur. Et on a lancé cette étude européenne auprès des personnes atteintes en phase quasiment terminale. Alors que le professeur marseillais avait bien dit, il faut administrer ce médicament en tout début. Ben non, on a fait un test pour ceux qui étaient en phase finale. Alors pour pouvoir dire qu'il ne sert à rien, ceci dit, en tout début, on sait qu'une part, la grande majorité de ceux qui attrapent le virus vont guérir sans avoir besoin de soins dans les hôpitaux. Donc, est-ce que c'est grâce à ce médicament ou pas? On ne sait pas non plus. Il n'empêche que s'il peut atténuer la force du virus, il faudrait logiquement l'utiliser. J'ai un fils, moi, médecin, qui trouve que, en prenant des précautions, même les généralistes pourraient éventuellement le préconiser en début. À propos d'ailleurs des généralistes, ils ont été un peu sacrifiés les premières semaines. Ils n'avaient pas d'équipement pour recevoir leurs patients. Tout le monde connaît l'histoire des masques. On commence par nous dire que ça ne sert à rien parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Et puis maintenant, on nous dit que ça va être indispensable pour la fin des opérations. Enfin bon, moi, je commence à changer de chaîne dès que je vois apparaître un de ces grands mandarins de la médecine française. Voilà mon point de vue.
Michel Lebrun. Michel Lebrun, quel regard sur cette actualité?
Pour ce qui me concerne, là, moi, je suis frappé par... si on reprend plus de 30 ans en arrière... on nous a décrit que l'homme nouveau, ce serait l'homme nomade, hein, au sens de comme l'écrit Attali hein, dans un de ses bouquins où il dit « Demain, qui gouvernera le monde ?» L'homme nomade, hein, l'homme géré par une gouvernance mondiale. Bien sûr, pour faire avaler ça, il faut aussi se trouver des ennemis. Donc on nous dit « Attendez, le CO2, il faut absolument le combattre parce que dans un siècle, on sera obligé de vivre sur des bateaux. Donc, on nous met en place des trucs extraordinaires. On gaspille un fric monstre. On vous fout des éoliennes partout dont on n'a pas besoin, surtout en France. On gaspille un fric monstre parce que tous les opportunistes là-dedans, ils sautent sur l'occasion. Les opportunistes aussi, c'est faire peur. C'est le meilleur moyen de gouverner et d'imposer ce type de gouvernance. Derrière tout ça, on va trouver bien sûr la City, on va trouver les très très grosses fortunes mondiales hein, qui nous dominent. Et puis, les ennemis sont là. Hein, donc, il faut que le peuple accepte tous les sacrifices pour combattre ses ennemis. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit que l'ennemi n'est pas là. Il nous tombe dessus et on n'est pas prêt. On n'a pas de masque, on n'a rien. C'est une catastrophe. Rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Je trouve que c'est une leçon hein, pour ces idéologues hein, de cette gouvernance mondiale d'un côté, mais aussi tous les politicards qui depuis des années ont fait allégeance à ces gens-là. Hein. Quand on voit qu'on fait basculer par exemple la France du droit romain qui a imprégné toute notre culture, hein, qui est le droit civique, le droit commun, donc hein, ce droit romain de base. On le fait basculer aujourd'hui, on fait allégeance dans l'Europe à un droit anglo-saxon qui est un droit purement économique de business. Hein l'exemple le plus simple, hein, c'est quand vous mettez depuis 2015, vous mettez de l'argent à la banque, l'argent appartient à la banque et la banque vous donne un bout de papier. Hein mais c'est un petit exemple, mais il y en a derrière ça, c'est monstrueux, c'est toute une force qui est mise en œuvre hein, pour la bonne cause, pour sauver l'humanité dans un siècle. Et puis aujourd'hui, bien, il y a quelque chose qui nous réveille d'un seul coup. Et on s'aperçoit qu'on n'a absolument rien anticipé. Donc tous ces grands cerveaux, que font-ils? Que nous foutent la merde, hein, c'est tout.
Alors, juste une question.
Je pourrais c'est...
Oui, absolument,
oui,
Claude.
C'est Claude. En fait, oui, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, parce que aussi dans cette démarche un petit peu de mondialisation, on semble découvrir qu'on était très dépendant de la Chine et de l'Inde en matière de médicaments. Or, c'est pas une nouveauté, ça fait plusieurs années qu'un certain nombre de personnes tirent la sonnette d'alarme pour dire que des médicaments essentiels sont faits par l'industrie pharmaceutique à 80%. Alors, je prends l'exemple des compensateurs pour la thyroïde, je prends l'exemple des paracétamols. Ils sont fabriqués à 80% depuis plusieurs années dans ces pays-là, et il y a depuis 5 ou 6 ans des personnes qui tirent la sonnette d'alarme sur notre dépendance. Alors, cela m'amène, alors déjà, on fait semblant de découvrir, alors que ça n'est pas un problème nouveau, et il a beaucoup joué dans notre dépendance par rapport à la fabrication des masques et d'un certain nombre de médicaments, puisqu'on en est aussi à réagir par rapport à ce qui pose problème, c'est de voir que pendant de très nombreuses années, l'industrie pharmaceutique était loin d'être en difficulté, a globalement fait plus de bénéfices encore en faisant travailler des gens avec des salaires bas dans ces pays-là, et qu'aujourd'hui, c'est les États qui doivent organiser des ponts aériens pour aller chercher les médicaments et faire des ponts, et ramener des masques et ramener des médicaments depuis la Chine et l'Inde. Où sont passées les industries pharmaceutiques? Est-ce qu'elles ne devraient pas contribuer à ces surcoûts que nous avons aujourd'hui et à cette dépendance pour compenser toutes les années où justement elles ont fait des bénéfices importants, c'est dans les plus importantes du CAC 40, pendant de nombreuses années?
Vous êtes bien toujours sur RVR dans l'émission À ciel ouvert avec Gervais Morel, Michel Lebrun et Claude Janin pour évoquer ce moment bien particulier de l'attaque de ce virus sur la planète. Ma question à vous trois, pensez-vous que réellement ce virus vient d'un animal? Quand on sait qu'il y a des scientifiques qui manipulent de terribles virus. Gervais Morel, à votre avis?
Ben, je réponds, contrairement à tous ces grands pontifs qui nous abreuvent d'un savoir qui en réalité repose sur pas grand-chose, j'en sais rien. On a eu des commentaires sur la chauve-souris, sur je ne sais quel autre. Peut-être que oui, peut-être que non. D'où ça vient? Si ça vient des chauves-souris, il faut détruire toutes les chauves-souris. Non, on n'en est pas là, je pense pas. Et je doute que quelqu'un puisse apporter une réponse précise sur ce sujet.
Michel Lebrun.
Je rejoins Gervais. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi suspecter le fameux laboratoire de Wuhan, là, parce que c'est déjà arrivé, hein, l'Institut Pasteur, hein, c'est déjà arrivé. Ça n'a pas généré des conséquences énormes, mais il y a des accidents sont déjà apparus. Je ne crois pas du tout, moi, à une volonté, hein, parce que tout le monde est touché. Donc, mais par contre, on peut pas, à notre échelle, je pense qu'on peut rien, soupçonner, on peut rien affirmer, quoi. Hein, ça peut être effectivement un pur saut du monde animal vers l'humain, oui. Hein, comme ça s'est passé pour le VIH, le SIDA. Hein, donc, l'accident n'est pas non plus quelque chose d'impossible.
Et Claude?
Alors moi, je n'étant pas spécialiste hein, de l'épidémiologie, malgré tout, il me semble que dans les explications que l'on voit actuellement, celles qui évoquent le fait d'avoir enlevé des animaux de leur milieu naturel, hein, puisqu'avec le pangolin, c'est un petit peu ce qui serait a priori en question, dans un milieu qui justement est habitué à résister au virus qu'il porte ou aux éléments pathogènes qu'il a en lui, eh bien, ce changement de milieu sans précaution peut provoquer des accidents comme cela. Ici, il a pris des proportions énormes et il a été accentué par la mondialisation, par les déplacements importants. Moi, ça me fait penser à d'autres cas du même type. Hein. Par exemple, le varroa, qui est un tic qui a décimé la moitié des ruchers d'abeilles il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu de la même manière. Hein. Il arrivait de l'hémisphère sud, dans un milieu où les abeilles étaient résistantes à ce varroa. Il a été amené accidentellement chez nous et du coup, ça a décimé parce que les abeilles de chez nous n'étaient pas habituées. Donc voilà, je pense qu'on peut citer encore plein d'autres accidents du même type. Est-ce que le SIDA, par exemple, ça n'a pas été aussi la même question? Voilà, alors, à mon avis, une des raisons, c'est ce changement de milieu, changer d'écosystème sans prendre les précautions nécessaires à des éléments du vivant.
Alors, il y a une étude qui a été publiée dans Science et Vie. C'est un labo américain qui a travaillé sur le virus de la grippe aviaire. Jusqu'à présent, la grippe aviaire décimait les animaux, entre autres la volaille. Et il s'est avéré que ces chercheurs ont trouvé le moyen, c'est sur Science et Vie qu'on peut le lire, eh bien, ils sont arrivés à le muter, à le faire muter pour qu'il s'adapte à l'homme. C'est un peu dangereux tout cela. Alors, qui répond ?
Claude Janin.
Oui, non, mais c'est lorsque, chaque fois que l'on joue à l'apprenti sorcier, pour parler justement de la chloroquine là, et de la remarque qui était faite tout à l'heure et que je rejoins, c'est étonnant de voir qu'on prend de telles précautions par rapport à un médicament qui est du domaine public depuis 40 ans et que parfois, que ce soit sur les OGM, que ce soit sur des manipulations génétiques ou des croisements variétaux, eh bien on fasse évoluer le vivant sans prendre le temps de regarder toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur les évolutions que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut être toute évolution et toute mutation du vivant, mais il y a une précaution à prendre. Mais c'est vrai que les précautions à prendre par rapport à l'évolution du vivant, elles sont sur plusieurs décennies. C'est-à-dire que normalement, une nouvelle variété, un nouvel organisme génétiquement modifié devrait être mis en quarantaine, en quelque sorte, pendant plusieurs décennies pour en voir les effets.
D'accord.
Or, c'est incompatible avec, je dirais, le court-termiste de l'économie moderne.
Michel Lebrun.
C'est vrai qu'on rentre dans un domaine aussi de la recherche, une recherche scientifique, avec des potentiels d'application qui peuvent être aussi pervertis. Maintenant, faut aussi ramener ça à certaines proportions. Hein, si on prend les trois vagues de peste noire en Europe, ou la première vague vers les années 1300, ça a été quand même entre 30 et 50% de la population qui est morte. Hein, la troisième vague a été même encore en 1720 était extrêmement brutale. Ensuite, les vagues, que ce soit la variole, ce soit ensuite la grippe espagnole qui a été quand même terrible en 1920, hein, on se retrouve. Hein. La grippe asiatique, vous vous souvenez, on estime la grippe asiatique en France aurait fait, et là la fourchette est large, entre 20 000 et 100 000 morts. C'était 1957-1958. On a extrêmement progressé, si vous voulez, donc grâce à la recherche scientifique. Mais la vie, c'est une course permanente, c'est une compétition permanente. C'est-à-dire que le virus, c'est un animal extrêmement intelligent, qui est fabuleux, qui est en même temps la source de la vie et qui à chaque fois développe des stratégies de contournement qu'il faut nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, contourner. Il y a des précautions, des précautions éthiques, etc. Mais on est dans une course permanente pour survivre.
Hein. Gervais Morel.
Oui, alors la grippe asiatique en 57, de mémoire, je m'en souviens très bien, puisque j'étais interne au petit séminaire Saint-Gildas, et plus de la moitié des élèves internes, donc, avaient chopé cette grippe asiatique. On a été renvoyés chez nous plus tardivement, d'ailleurs, que la plupart des établissements. Mais tous les établissements, déjà à l'époque, avaient été fermés. Donc, c'est pas le premier virus que l'on subit. Ce qui continue à m'irriter, c'est qu'il faut que tous ces grands spécialistes arrêtent de défiler. Les journalistes leur posent des questions dont ils n'ont pas la réponse, mais pour justifier de leur participation à ces émissions, ils en donnent une. Et ils donnent des comptes à passe leur temps à se contredire les uns les autres. Voilà, donc il va falloir subir, ça s'arrêtera forcément. Et logiquement, ça devrait... Alors il y a une chose aussi qui me paraît curieuse, c'est que... On veut sortir de cette pandémie quand en gros 60% de la population aura été contaminée. Et ce sera de ce fait immunisé grâce aux anticorps, etc. Parce que produit la nature qui est bien faite. Ce confinement, c'est pour étaler dans le temps l'arrivée dans les hôpitaux qui sont déjà submergés.
Ça, tout à fait.
Je le conçois complètement. Ceci dit, une chose qu'on évoque assez modestement, c'est que cette pandémie pourra s'arrêter aussi si on trouve le remède qui permet de détruire le virus. Parce qu'avant qu'on puisse être vacciné au cas du retour de ce coronavirus, il va s'écouler des mois, voire des années. Il faudra bien qu'on trouve une solution, et une solution pour soigner. Or aujourd'hui, on ne sait pas comment se soigner. C'est bien la grande difficulté de cette pandémie.
Claude Janin voulait rajouter quelque chose, mais alors succinctement.
Pour dire que les virus ont la particularité par rapport à d'autres micro-organismes d'être en général assez résistants aux antibiotiques ou autres. Hein. D'ailleurs, la grippe la grippe, on n'a pas de médicaments contre la grippe à proprement parler non plus. Alors, moi, je voulais juste faire une réflexion personnelle, hein, d'un point de vue plutôt du géographe ou de l'agronome que du scientifique en médecine, que compétence que je n'ai pas, c'est que souvent on réagit, je suis tout à fait d'accord pour dire que la vie est une compétition entre organismes dans un milieu donné. Mais c'est vrai que l'homme a peut-être aussi, dans cette compétition, trop misé depuis un certain nombre de décennies, en tout cas depuis la société le progrès occidental tel qu'il est aujourd'hui, sur la lutte avec des moyens de défense contre le milieu vivant. Or, les virus, faut pas oublier que ceux qui sont pathogènes, c'est une infime minorité de tous les virus. Et ils sont très nombreux à avoir contribué et à être dans notre patrimoine génétique aujourd'hui. Mmh. Je vous prends l'exemple de l'agriculture, par exemple, qui est souvent l'agriculture conventionnelle dans une réaction de défense et de défensive vis-à-vis du milieu naturel, alors que nous pouvons essayer de trouver des alliés dans ce milieu naturel pour lutter contre justement les organismes pathogènes. Il faut espérer que si on veut que ce soit durable, cette capacité de résister à des pandémies comme le virus, ou en tout cas de pouvoir s'adapter, parce qu'on ne pourra jamais les empêcher, il me semble qu'un des enseignements, j'espère qu'il sera retenu, c'est qu'il faut peut-être aussi chercher dans la nature les alliés qui nous permettent de lutter contre des agents pathogènes comme cela.
Vous suivez l'émission À ciel ouvert sur RVR avec Gervais Morel, expert comptable, Michel Lebrun, scientifique, Claude Janin, géographe. Nous parlons coronavirus sur les antennes de RVR. Et pour vaincre ce virus, obligé d'employer la seule arme pour l'instant, c'est le confinement. Et cela a pour effet d'arrêter une grande partie de la vie économique, une grande partie du pays. Quelles conséquences économiques à court terme et à long terme? Et de ce fait, je m'adresse à Gervais Morel, expert comptable. D'ailleurs, Gervais, vous allez avoir de la peine à écrire votre prochain livre sur la fiscalité.
Alors, en 2008, on a eu une crise, mais qui était une crise purement financière. C'est la bulle qui a explosé avec les subprimes, qui étaient des produits complexes et dans lesquels on trouvait des créances irrécouvrables. Cette fois-ci, on a une crise économique. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'un tout petit virus qu'on voit même pas est capable de bouleverser l'économie mondiale. Cela nous ramène à la modestie. Deuxième remarque, comment ça va se passer dans les mois ou années qui viennent? Eh bien, je vais vous décevoir, mais je vais pas jouer les pontifs comme beaucoup le font aujourd'hui à la télévision. On ne sait pas combien prendra de temps la fin de cette pandémie. Et tant qu'elle sera présente, notre économie restera bouleversée. Alors, je vais en dire deux mots parce que les conséquences, cette fois-ci, peuvent être extrêmement graves. C'est une crise économique, ça n'est pas une crise financière. Alors, il y a des conséquences financières, bien sûr. Tous ceux qui ont un portefeuille boursier ont pu s'en rendre compte, mais c'est une crise économique. Donc, le retour à la normale, ça va prendre un certain temps. C'est comme le fusil de Fernand Reynaud pour trop pas dire. Personne n'a la réponse aujourd'hui. Même si, là encore, dans des émissions de télévision, on a de grands spécialistes de l'économie qui apportent des réponses. On n'en sait rien. Et puis la deuxième chose importante pour ce retour à une économie normale, c'est le retour de la confiance. Or, la confiance, ça se décrète pas. Et combien de temps cette confiance va mettre pour à nouveau animer notre économie? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Donc on sait que ça repartira nécessairement, mais on ne peut pas dire dans quel délai. Pendant cette période dramatique, on a une partie des produits, une partie des services qui n'auront pas été consommés et qui sont définitivement perdus pour le produit intérieur brut. Les hôtels qui sont vides, qui en vendront bien sûr des chambres d'hôtel quand ce sera reparti, mais tout ce qui n'a pas été acheté pendant cette période de pandémie est définitivement perdu. Il en est de même des restaurants, il en est de même des commerces, des commerces de vêtements, par exemple, qui ne sont pas indispensables. Et là, la consommation de richesses est colossale et on ne peut pas encore l'estimer. On commence à avoir des chiffres qui sont avancés. Ça devrait être assez considérable. De mémoire, en 2008-2009, le PIB avait dégringolé de 8% environ. Là, on n'est pas à 8%, on est peut-être à 15%, on est peut-être à 20%, on est peut-être à 30%. Tout va dépendre de cette durée du retour de la confiance.
Au mois de mars, le PIB est déjà à moins 6.
Oui, pour l'instant, on est à moins 6, mais à fin avril, on va perdre encore combien? Et puis au mois de mai, combien? Pour l'instant, on ne pourra faire qu'un constat a posteriori. Bien. C'est bien la grande difficulté, j'insiste bien. On ne sait pas quand finira cette crise économique. Elle ne finira pas en tous les cas tant que la pandémie continuera. On commence déjà à nous dire, d'ailleurs la bourse aujourd'hui est en train de se retourner, elle avait monté pendant 2 jours, et elle se retourne, on a une volatilité comme c'est pas permis, et parce que apparemment il y a des risques de seconde épidémie qui reviendrait parce que confinement n'était pas suffisant, ça part dans tous les sens. Là.
Bien.
Le gros problème, c'est que beaucoup d'entreprises, je pense, notamment dans des secteurs, ce qui n'a pas été consommé pendant cette période où on est confiné, a perdu tout son chiffre d'affaires. Et un certain nombre d'entreprises, il ne faut pas se faire d'illusions, déposeront le bilan. Alors c'est vrai que l'État a mis à disposition des prêts garantis auprès des banques. Il n'empêche que, d'après les cotations Banque de France, au moins 15% des entreprises n'auraient pas accès à ces crédits de trésorerie. Donc ces entreprises sont condamnées, elles déposeront au bilan, elles licencieront, et ce sera terminé. Le dégât risque d'être considérable.
Merci, Gervais.
La Banque centrale, c'est un tout petit mot, oui. La Banque centrale européenne s'est bougée et propose aux banques un refinancement, à condition que les fonds soient mis à disposition des entreprises qui en ont besoin, avec un taux de moins 0,75. Comme on dit, la BCE prête à perte aux banques, qui elles-mêmes vont reprêter aux entreprises et l'État va garantir les crédits. Bon, mais ça ne les rembourse pas, c'est bien le problème. De même, les échéances qui sont reportées pour tout ce qui est fiscal, tout ce qui est social, c'est vrai pour l'instant, ceux qui n'ont plus de trésorerie ne peuvent pas payer. Il n'empêche qu'il faudra bien payer un jour, même si c'est étalé, à moins d'annuler toutes les dettes. Mais là, on est dans une hypothèse que je n'ose même pas imaginer.
Merci Gervais. Michel Lebrun, un mot.
Alors, l'emploi en France, hein, pour une très grosse partie, c'est lié à des petites entreprises, y compris les entreprises. Quand je dis petites, ça peut être 4-5 personnes. Et ce sont elles qui sont les plus affectées. Aujourd'hui, si vous regardez le PIB de la France, 56, presque 57%, c'est l'État. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a 44% du secteur libre, du secteur actif qui alimente. Là-dedans, il y a 10%, c'est le tourisme. 10% du tourisme, le tourisme, qu'est-ce que ça va faire? On n'est pas sorti juin, juillet, ça va ramasser une claque terrible. Donc effectivement, là, il y a quand même des inquiétudes très fortes. On va se retrouver avec un niveau de chômage, un niveau de perte, comme disait Gervais tout à l'heure, sur ce qui ne se récupère pas, hein, ce qui n'est pas loué au mois de mai, au mois de juin, c'est fini, quoi. Hein, là. Donc leur saison va être fortement impactée sur ces 10%, on va ramasser quelques... Ça va être un ramassage terrible, quoi. Hein. Bien sûr, et là, c'est tous les drames humains aussi qui sont vécus, que ce soit pour l'employeur, hein, parce que franchement, être employeur aujourd'hui avec ce qu'il peut payer en termes de taxes, etc., parce qu'on revient tout de suite aux 56%, hein, se battre pour avoir une trésorerie qui est juste à l'équilibre, une claque pareille, ça va en décourager plus d'un, et c'est psychologiquement aussi pour l'avenir une certaine inquiétude. Navré d'être plutôt inquiet et pessimiste, hein, mais... Je pense qu'il faut s'attendre quand même, c'est plus facile de s'attendre au pire et puis après de prendre le meilleur que de se faire des illusions. Hein.
Claude Jeannin.
Alors, moi je suis en phase avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est vrai qu'une des urgences, c'est de voir comment aider les entreprises qui sont en place et surtout les PME à passer cette période difficile. Alors, c'est vrai que cela demande, dans un premier temps, ce qu'on n'a pas eu au début de cette crise. C'est un langage clair et un discours clair. Je prends l'exemple des entreprises de BTP, par exemple, qui ont commencé à arrêter les chantiers parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en place les mesures de confinement. Après, on leur a dit reprenez les chantiers parce qu'il y avait des contingences économiques derrière et tout. Du coup, elles n'ont pas pu, dans un premier temps, bénéficier du chômage partiel, en tout cas de l'aide de l'État dans ces types de chômage. Voilà. Déjà, il faudrait des consignes un peu claires sur le pourquoi, sur la manière dont le confinement doit être fait. Après, je voudrais réagir un peu par rapport à ce qui a été dit, le retour à une économie normale. Mais c'est quoi une économie normale? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que le coronavirus, il n'amène pas aussi une réflexion à avoir sur d'autres problèmes qui peuvent se faire jour un jour et nous arriver comme ça du jour au lendemain, liés au changement climatique, par exemple? C'est un enjeu, alors je sais bien qu'on ne sera pas tous d'accord sur cette question-là, mais c'est un enjeu à l'avenir et qui demande peut-être aussi à revoir comment nos économies peuvent être plus résilientes et plus adaptables à des situations de crise, à des situations difficiles. Parce que je vois aujourd'hui, par exemple, il y a aussi des signes. Alors, je suis très inquiet aussi sur les entreprises et leur devenir, Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Mais on voit quand même des initiatives, des innovations qui se passent en circuit court, localement, en matière d'alimentation, en matière de distribution. Un certain nombre d'entreprises s'adaptent sur les matériaux, sur un certain nombre de fournitures. Donc voilà, il y aura peut-être autre chose à réinventer, quoi. Ce qu'il y aura après, ça ne sera pas forcément un retour à un mode économique qu'on a connu. En tout cas, de mon point de vue, ça me redonnerait un peu d'espoir par rapport à la situation actuelle où effectivement, je connais beaucoup d'entreprises qui sont en grande difficulté et on ne voit pas trop comment les aider. Moi, je pense qu'il y aurait une lueur d'espoir si effectivement, on savait en tirer des enseignements pour aller vers un autre modèle économique qui soit plus proche du local, qui soit plus proche d'une adaptation à des situations plus résilientes par rapport à des événements imprévus comme celui qui est en train de nous arriver.
Bien, le temps est presque écoulé. Je vous demande une réponse assez courte à ma question. Pensez-vous que le gouvernement français, le président de la République, gère bien cette crise sanitaire sans précédent ? Et également, si nos voisins aussi gèrent bien cette crise ? À vous, Michel Lebrun.
Si gérer, c'est anticiper. Moi, je reviens toujours sur les 30 dernières années de sa vie de Maurice Allais, qui dénonçait les dérives. Il n'était pas contre la concurrence, hein, mais il disait que mettre en concurrence des entreprises dans des pays qui ont des dynamiques, des lois sociales, des lois fiscales différentes, aussi différentes, c'était suicidaire. Et il est mort en 2011, je crois. Hein, pendant 30 ans, il était interdit de discours sur les plateaux de télévision. Donc, je pense quand même que là, l'anticipation a été mauvaise et qu'il faut qu'ils révisent un peu leur formation. Hein.
Claude Janin.
Bon, moi, je prends un peu la même chose. Si on dit que gérer un pays, c'est prévoir, je pense que là, effectivement, le gouvernement a été complètement à côté de la plaque et on a été dans l'amateurisme le plus complet. Je suis d'accord que c'est pas facile. Ils ont vu arriver quelque chose de nouveau contre lequel pas grand monde ne savait comment lutter. Mais malgré tout, je pense qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme et que du coup, ça n'a pas facilité les choses au départ. Je pense que c'est dû aussi, de mon point de vue, c'est dû aussi à notre modèle de société aujourd'hui qui justement est dans la verticalité sur un certain nombre de choses et où finalement, eh bien, la verticalité, le court-termisme des gestions financières est en train de montrer et c'est ce qu'on est en train un petit peu de payer aujourd'hui, de mon point de vue, avec aussi une sous-estimation. Je pense qu'on avait oublié, quand on voit les politiques de rigueur qu'il y avait, je suis d'accord qu'il ne faut pas dépenser trop d'argent public, mais malgré tout, dans les politiques de rigueur qu'il y avait jusqu'à présent, on a oublié tout ce que peut apporter un service public structuré, efficace et cohérent, et que notamment en matière de santé, on a trop fait souffrir les gens. Moi, je trouve inadmissible, par exemple, que dans un pays comme la France, on ait les infirmières parmi les moins payées d'Europe.
Bien.
On est loin d'être le pays le plus pauvre d'Europe.
Merci.
Et je trouve que là, on est vraiment en train de payer cette imprévision. Et j'espère là aussi qu'on saura en tirer des leçons.
Merci Claude. À vous Gervais Morel pour la toute dernière réponse.
Bon, bah, je mettrai un vœu pieux, mais qui restera un vœu, c'est de chercher la solution au niveau de l'Union européenne. Pourquoi pas en créant des entreprises, alors non pas nationalisées, mais européanisées, dont l'objectif n'est pas de s'insérer dans le prix des marchés et de réaliser des bénéfices, mais de nous mettre à l'abri, eh bien à l'abri de ce qu'on connaît aujourd'hui. On est obligé d'aller chercher en Inde, d'aller chercher en Chine, d'aller chercher un peu partout ce qu'on a laissé partir et qu'on pourrait peut-être ramener, mais à l'échelle européenne, sans objectif de rentabilité. Mais vous verrez que quand la pandémie aura disparu, et quelques temps après, on aura vite oublié les leçons qu'on aurait dû en tirer.
C'est-à-dire le capitalisme reprendra son droit.
Absolument, et le marché. Alors qu'on pourrait peut-être écarter du marché traditionnel ce qu'on estime indispensable pour non pas notre pays, parce qu'à l'échelle d'un pays, c'est pas réalisable, mais à l'échelle européenne, sans doute.
Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission à ciel ouvert pour parler de cette pandémie. On pourrait toutefois se retrouver aussi d'ici quelques temps pour en parler de l'évolution de tout cela, parce que ça peut être aussi très important d'avoir l'avis de nombreuses personnes. Voilà, donc je vous dis, bien écoutez, protégez-vous surtout et faites très attention, car paraît-il, et sûrement même que ce virus, eh bien là, peut être caché dans le moindre recoin et nous contaminer. Merci Michel Lebrun, merci Gervais Morel et merci Claude Janin, et à très bientôt sur les antennes de RVR.
À bientôt et merci.
Merci, au revoir Jean-Pierre.
C'était l'émission À ciel ouvert sur RVR avec Claude Janin, géographe, Michel Lebrun, scientifique, et Gervais Morel, expert comptable. Une émission proposée et animée par Jean-Pierre Doroy. Si vous souhaitez réécouter cette émission, allez sur le site de rvrradio.fr, émission À ciel ouvert.